Jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbault, Géraldine Mosna-Savoie.
Notre rencontre quotidienne, c'est une conversation à trois voix avec notre invité ce midi. Il est écrivain, il écrit des essais et des romans parmi les plus connus. Celui sur le génocide des Tutsis au Rwanda, Murambi, le livre des ossements. Ce texte constitue un virage dans son œuvre, une écriture simplifiée et un déclic culturel qu'il va nous expliquer. À partir de ce moment-là, il s'autorise donc à écrire en Wolof, l'une des langues parlées au Sénégal où il est né. Défendre cette langue, il en fait son combat. Et d'ailleurs, le livre qu'il vient nous présenter ce midi a été publié en 2018, d'abord en Wolof, puisqu'il a été écrit dans cette langue avant une traduction faite par lui-même. Il vient de paraître en France, donc sous le titre « Un tombeau pour Kinega Gadjo » aux éditions Philippe Ray.
Bonjour Boubacar Boris Diop.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans les Midis de Culture.
Voilà, merci.
Merci d'être avec
très
nous.
Très content d'être ici.
Et on est ravis de vous accueillir. Avant d'entrer dans l'histoire de votre roman, on voulait vous poser une première question sur l'actualité toute récente du Sénégal, que j'imagine vous suivez avec attention, puisqu'on a appris hier la libération des opposants, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, qui sont sortis de prison à quelques jours d'une élection présidentielle qui a été reportée. Il y a effectivement une tension politique en ce moment dans le pays. Est-ce que selon vous se profile à présent une élection plus ouverte dans votre pays?
Ah, il semble bien. On en a longtemps douté. En fait, depuis mars 2021, on est en on est exactement trois ans plus tard. On a été dans toutes sortes d'incertitudes. Il y a eu des pics de violence. Au total, bon, c'est quoi, une cinquantaine de morts. Et puis, la semaine dernière, on disait, ah, de toute façon, il n'y aura pas d'élection. Mais là, au fil des jours, notamment avec cette libération de Sonko et du candidat de Pastef, je crois que c'est à peu près sûr que, bon, les choses se sont tassées. Je me dis parfois que le plus dur va commencer après l'élection. Mais ça, c'est une autre histoire.
Ça suscite une forme de soulagement et d'espoir, en tout cas, pour vous?
Ben, de soulagement, parce que finalement, c'est la première fois qu'on a un président qui a voulu jouer aux autocrates. Moi, je ne dis pas dictateur, le mot est trop fort, et ça n'a pas marché. Parce qu'il faut savoir, c'est que l'idée que le Sénégal est une démocratie quasi exemplaire, non, c'est pas vrai, ça. Les élections ont été truquées, c'était parfois le monopartisme, les syndicats, bon, ben voilà, ils étaient réduits à leur plus simple expression, mais ce qu'on a toujours eu, c'est la liberté d'expression, la liberté de parole. C'est ça qu'il a voulu piétiner et ça n'a pas marché. Et donc, oui, on peut être content avec ça.
Donc vous dites que ce n'est pas une démocratie exemplaire, mais ça n'est pas non plus une dictature.
Oh, c'est pas... Non, une dictature, en réalité, la première réaction des intellectuels, c'est de quitter le pays, d'aller ailleurs pour protéger leur vie. C'est aussi, il n'y a pas de parti d'opposition, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas des intellectuels qui s'expriment et rentrent tranquillement chez eux. Donc ça, ce n'est quand même pas une dictature. Si on compare avec, par exemple, ce qui est en train de se passer au Tchad, oui, on peut voir la différence, hein, parce que lui, il a pratiquement tué tout le monde, quoi, en quelques jours. Le président tchadien, ça, c'est une véritable dictature. Encore que au Sénégal, il y a eu des
des répressions.
Ah oui, violentes. La police a tiré à balles réelles sur la foule. Il y a eu une cinquantaine de morts entre 2021 et maintenant. Il y a trois cas de torture bien répertoriés. L'un en est mort d'ailleurs, mais surtout, il y a deux citoyens sénégalais qui se trouvaient être des gendarmes qui ont disparu, à jamais. Et tout porte à croire qu'ils ont été exécutés. Et qu'il s'agit d'une exécution extrajudiciaire. Donc il y a tout ça. Hein, il y a tout ça, le président qui piétine les lois, mais malgré tout, à la fin des fins, ben, il a perdu. À la fin des fins, il a perdu. Et un véritable dictateur ne perd que dans un bain de sang, quand même.
Alors vous parlez, Boubacar Boris Diop, dans votre roman, de la société sénégalaise. C'est une forme de portrait, bien sûr. Vous allez nous parler aussi de cette jeune femme qui est citée dans le titre, Un tombeau pour Kiné Gajo. D'abord, il y a un événement qui a marqué, pas assez pour vous, et vous nous le direz, la société sénégalaise, c'est ce naufrage.
Ça paraît complètement fou, et pourtant c'est vrai. Il y avait deux fois trop de passagers sur le Djoula, ce ferry sénégalais qui s'est échoué jeudi au large des côtes gambiennes. Le ferry transportait 1034 personnes, chiffre communiqué par le cabinet du Premier ministre sénégalais. À ce que l'on sait, au moins 970 personnes ont péri ou étaient toujours portées disparues hier soir. Pour l'instant, 4 sont corps seulement ont pu être retrouvés et l'on ne compte que 64 survivants. Alors, depuis les premières heures du drame, les familles sont extrêmement désemparées dans la mesure où elles ont toutes les peines du monde à obtenir des nouvelles de leurs proches.
Je suis en train de voir les listes qu'ils ont affichées ce matin. Bon, jusqu'à présent, j'ai rien de clair. Mon fils, il se trouve dans le bateau. Je ne sais pas s'il est vivant, s'il est rescapé, s'il est décédé, je ne sais pas.
Un extrait du journal Afrique Midi chez nos confrères de RFI le 30 septembre 2002. Boubacar Boris Diop, c'est plusieurs jours après le naufrage donc de ce navire, le Djoula, qui reliait Séguine Chor dans le sud du Sénégal à Dakar, en passant par l'océan. Au final, ce sont 2000 hommes, femmes et enfants qui ont péri, pour la plupart piégés à l'intérieur de sa coque. C'est la pire catastrophe de l'histoire de la marine civile, pire que le Titanic, pour donner une image. Et c'est un événement qui, vous le dites dans ce roman, aurait dû marquer toute une nation, la mémoire collective du Sénégal. Et vous semblez dire que ça n'a pas été le cas.
Ah oui, et ce qui est choquant, c'est que... Bon, d'abord, moi, ça me touchait de près. Il y avait un jeune étudiant que j'ai à la maison depuis quelques années, originaire de Casamance. Ben, il est resté dans ce naufrage. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce roman pour lui. Eh bien, ce qui est en fait extraordinaire, c'est que plusieurs années après le naufrage, d'abord personne n'a été tenu pour responsable et jugé personne. Et deuxièmement, la coque du navire avec les corps à l'intérieur, c'est surtout ça en fait. Eh bien, et au large, avec les corps à l'intérieur. Il a été question d'aller
les sauver.
Pas les sauver, les gens sont morts, mais au moins...
Rapatrier
les corps, leur donner une sépulture décente, leur dire adieu dans la dignité. Ça n'a pas été fait. Et en fait, ça n'a pas été tellement commenté. En vérité, tel que j'ai vécu ce drame, c'est qu'il a eu lieu, les politiciens s'en sont emparés, se sont un peu tapés dessus, parfois d'ailleurs de manière assez joyeuse, hein. C'était pas la tristesse totale. Et puis, après, on est passé à autre chose.
Et donc vous ravivez cette mémoire dans ce roman, Un tombeau pour Kiné Gajo, donc ce tombeau pour toute une nation, en quelque sorte. Mais là, c'est ce personnage que vous mettez en avant dans votre roman, personnage fictif, si vous deviez nous la présenter. Qui est cette Kiné Gajo?
Est-ce que je peux dire qui sont cette Kiné Gajo? Parce que finalement, c'est un personnage composite. Pour faire son portrait, je me suis souvenu de plusieurs personnes, des jeunes femmes, des artistes, des intellectuels, avec qui j'ai été vraiment dans des relations exceptionnelles, amicales, fraternelles. On était de mutuels confidents, on se confiait des secrets. Et c'était des personnes très marginales. très marginale, n'acceptant pas les règles de la société, non seulement en tant que femme, mais juste en tant que citoyenne, au fond complètement anarchiste. J'ai mis tout ça ensemble et c'est devenu Kinegadio. Pourquoi le nom Kinegadio? J'ai grandi en entendant ce nom autour de moi. C'était le nom d'une femme particulière, un peu trop belle, quoi. Voilà, d'une beauté quelque peu surréelle, dont tout le monde parlait. Et je ne savais pas que je m'en souviendrais, ni même que je l'avais gardé en mémoire, que je m'en souviendrais lorsque j'écrirai ce livre. C'est pourquoi j'ai choisi ce nom-là.
On va reparler de la mémoire, bien sûr. Et donc, on découvre dans votre roman, Boubacar Boris Diop, Kinegadio par le récit de la narratrice. La narratrice s'appelle Djemé Paye. Paye ou Paye, comme on
Paye,
vous dit Paye. Djemé Paye. Paye, donc, qui s'adresse à nous dès le début du roman. On est justement plusieurs années après le naufrage, une quinzaine d'années, et elle dit vouloir écrire justement une biographie de Kinegadio, cette grande poétesse du Sénégal dont vous nous avez donné les coulisses il y a quelques instants. Elle est Djemé Paye en première ligne, évidemment, de ce naufrage en 2002, puisqu'elle est journaliste, elle travaille dans une radio, et donc elle va devoir évidemment parler de ce fait d'actualité important. Puis elle est aussi en première ligne et première concernée, parce que justement, Kinegadio, qui est dans ce navire, va y périr, est son ami. Plus que son ami, vous dites, c'est une plus que sœur.
Plus que sœur, voilà. L'expression « plus que frère » existe au Sénégal. Je crois qu'elle a été inventée par Senghor lui-même, notre ancien président, le poète. Et moi, j'ai dérivé un peu en disant « plus que sœur ». Vous savez, Djemé Paye, elle est journaliste. Son amie Kinegadio, elle est écrivaine, une poétesse connue. Eh bien, moi-même, je suis à la fois journaliste et écrivain. Quelque part, oui, sur les deux cas, j'étais en terrain connu. J'ai fait partie de cette première génération de journalistes qui ont mis sur les rails la presse privée sénégalaise, quoi. Alors, je fais partie d'un groupe, le groupe Sud Communication, qui a créé un des premiers journaux privé au Sénégal. Ensuite, ça a été une radio pour laquelle j'ai un peu travaillé. Et puis, en tant que journaliste, je ne suis pas juste un écrivain qui écrit dans les journaux. C'est que j'ai une formation réelle de journaliste. D'ailleurs, dans la même école que mon personnage, que Kinegadio. Et puis voilà. Quelque part aussi, j'ai beaucoup de choses en commun avec...
Avec les deux personnages.
Avec les deux.
Voilà. Avec les deux personnages, évidemment. Alors, vous parlez de vos débuts comme journaliste, de votre profession, de votre formation. Vous abordez dans votre roman, justement, cette scène médiatico-politique. On en a dit un tout petit mot tout à l'heure. Ils sont incarnés, évidemment, par plusieurs personnages. Alors, Djemé Paye, évidemment, cette journaliste narratrice... cette narratrice journaliste radio, pardon, dans ce sens-là, c'est mieux. Radio, d'ailleurs, qui est très engagée, hein, qui n'hésite pas à rentrer dans l'art des dirigeants corrompus et de ceux qui sont à l'origine de scandales. Elle dit interviewer tous ceux qui comptent dans le pays, dans une émission qui s'appelle Droit au but. Donc le portrait est assez clair. Et puis il y a d'autres personnages réels qui sont aussi évoqués, notamment l'ancien président Abdoulaye Wade, qui est d'ailleurs, et puisque vous le disiez tout à l'heure, accusé d'avoir tenu la population responsable de ce drame du naufrage. Quel est ce portrait de la société que vous voulez nous montrer dans ce roman?
Oui, mais c'est venu tout seul. Nous avons l'habitude de nous, faute de pouvoir leur faire mal en quelque sorte, de tourner en dérision nos hommes politiques. Et il faut dire que beaucoup sont quand même assez comiques, hein, au Sénégal. Nous avons 300 partis politiques.
300?
Ah ben oui. 318 millions d'habitants.
Donc déjà, ça vous fait rire.
Ouais, oui, bien sûr. C'est tellement drôle. 300 partis politiques. Et puis, les quotidiens, le dernier chiffre que j'ai, la presse quotidienne, nous avons 65 quotidiens. Voilà. Que personne ne lit.
Vraiment personne, hein? Vraiment personne ne lit ces quotidiens?
Non, évidemment, parce que, je ne sais pas, d'abord les journaux normaux, bien tenus, réguliers, ont beaucoup de problèmes, quoi. Avec la crise économique et avec Internet, les réseaux sociaux, en réalité, aussi bien ces journaux, que ces partis politiques, c'est des instruments de négociation pour des opérateurs politiques. On dit « j'ai un parti », et puis on le fait enregistrer au ministère de l'Intérieur. Parfois, on est seul avec deux ou trois amis. Mais régulièrement, on sort un communiqué en disant « le secrétariat exécutif s'est réuni, a analysé la situation à Haïti, a pris position, a critiqué le gouvernement, etc. » Et puis on reste tranquille. Mais quand il y a maintenant, un gouvernement qui doit être formé, quand il y a des négociations qui concernent les hommes politiques, des missions, etc., ben on est là, on n'existe que sur le papier, mais on n'en existe pas moins.
Ça veut dire.
Et donc, et généralement, c'est pas des gens sérieux non plus. Si on est sérieux, on ne fait pas ça. Au départ.
C'est intéressant parce que vous nous dites, ce n'est pas une démocratie, ce pays, ce n'est pas une dictature, puisque vous voulez le dire, il y a une presse qui peut exister, il y a tous ces partis politiques qui peuvent exister, mais alors comment on explique cette non-action, peut-être ce désengagement de la part de la population? Comment vous le voyez? Comment vous le qualifiez tout ça?
On a pu avoir l'impression que, effectivement, que la population sénégalaise était apathique.
Parce que vous dites du pays dans votre roman, en tout cas c'est notre narratrice journaliste qui parle d'un pays qui titube à reculons vers l'abîme.
Oui.
En se moquant des présidents précédents.
Oui, bien sûr, ça c'est l'écrivain qui trouve une formule pour dire des trucs. Ce n'est pas forcément la réalité. C'est peut-être le trait un peu grossi, quoi, à dessein, pour faire du style, quoi, en quelque sorte, pour frapper. Le lecteur.
Ça m'a frappé.
Voilà. Oui, c'est ça. Mais en réalité, ce qu'on a vu avec cet événement-là, Macky Sall, qui veut piétiner la Constitution, c'est que quand même, la population a résisté. Et il a lâché prise à cause de ça. Ouais. Au fond, la population n'est pas aussi apathique que je le dis dans mon roman, que je le fais dire à Diémé Paye.
Vous avez été journaliste, vous êtes écrivain, et vous venez de dire qu'il y avait beaucoup de quotidiens qui pouvaient paraître, mais qui n'avaient pas de grande portée, que c'était un petit peu comique. C'est pour ça que vous avez décidé de passer à la littérature, justement, parce que quand vous étiez journaliste, vous aviez l'impression que ça servait à rien.
Oh non, moi j'ai toujours pensé, c'est le contraire, hein. En fait, j'ai toujours pensé, lorsque j'étais tout jeune, franchement un petit bout d'homme, que je deviendrais un écrivain. Parce que j'ai grandi dans un milieu où le livre était extrêmement important. Mon père, qui était un petit fonctionnaire de l'administration coloniale, avait installé dans la maison une immense bibliothèque. Il n'y avait que des livres, hein, et une grande table au milieu. Et moi, j'étais tout le temps là-bas. Et à force de lire, j'ai eu envie très tôt de devenir écrivain. Il se trouve, c'est intéressant, que dans cette librairie paternelle, pour une raison ou une autre, hein, lui seul aurait pu expliquer aujourd'hui, il y avait des auteurs du 19e siècle. Et à force de les lire, Lamartine, Hugo, Alfred de Vigny, j'ai senti moi-même très tôt que dans mon style, il y avait une certaine tendance à l'emphase, à l'enflure. Que, oui, je me suis autocritiqué, pour ainsi dire, et je me suis rendu compte qu'au fond, le style m'intéressait beaucoup, beaucoup plus que le contenu. Et il fallait corriger ça. Et donc, c'est pour ça que j'ai pris le journalisme au sérieux. Parce que je comptais sur le journalisme pour mieux connaître la société. Être au plus près des faits, et puis me reconvertir dans une forme d'écriture plus directe, plus sèche, qui dit beaucoup en très très peu de mots. C'est comme ça, hein. C'est d'abord la littérature, ensuite le journalisme.
Mais vous écrivez des livres, là.
Oui.
Et c'est ça qui porte le plus.
Mais mon premier livre, je l'ai écrit quand j'avais 15 ans. Ah oui. Jamais publié. C'était le livre d'un enfant de 15 ans, mais c'était un livre abouti, complet.
Il était bien ?
Bah, j'aimerais bien le relire pour me rendre compte à quel point il n'était pas bien. Voilà. Bon, je me souviens d'ailleurs de quelques phrases. Et oui, il y avait justement cette tendance à l'enflure, quoi, propre à l'héritage paternel. Voilà. Et après, j'ai continué à écrire. Et j'ai publié quelques livres avant de devenir journaliste. J'ai appris le journalisme dans une école de journalisme bien au-delà de 40 ans. Voilà, bien au-delà. C'était fait exprès.
Dans tous les systèmes coloniaux, la langue est utilisée comme un outil de contrôle des mentalités. Au Kenya, ils battaient, ils punissaient les enfants qui parlaient leur langue maternelle à l'école. Vous deviez abandonner votre langue africaine. Si un enfant était bon en mathématiques et un autre en anglais, c'est celui qui réussissait en anglais qui était applaudi et vu comme un génie, parce qu'il parlait l'anglais, et on trouvait ça normal. C'est un avertissement, parce que cela signifie qu'on ne pouvait pas penser autrement que dans le cadre de la langue du colonisateur. C'est vraiment de la colonisation des esprits, car cela revient à dire aux colonisés que le vrai savoir ne peut exister qu'en français, en anglais ou en portugais, mais que leur propre langue maternelle ne peut pas être le véhicule du savoir et de la connaissance.
La voix de l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, c'était sur RFI en août 2022.
Que vous connaissez évidemment, Boubacar Boris Diop.
Oui, très bien.
Il parle le kikuyu et l'anglais, car le Kenya a été une colonie britannique. Comme vous, vous parlez au Wolof et français, puisque la France a été le colonisateur du Sénégal. Cette langue Wolof, que vous parlez donc depuis toujours, vous aussi, vous avez dû ne pas la parler à l'école, l'oublier en tout cas, et la réapprendre peut-être, en tout cas c'est le cas d'un de vos personnages dans ce livre, pour l'écrire.
C'est comme ça, c'est absolument la même situation, à cette différence près que dans les colonies anglaises, hein, Kenya, Ghana, Nigeria, etc., il y avait un peu plus de tolérance pour les langues maternelles. Alors que au Sénégal, au Gabon, en Côte d'Ivoire, d'abord, tout petit, nous chantions nos ancêtres les Gaulois, voilà, aux yeux bleus, aux cheveux blancs, c'est bizarre, mais c'est comme ça. La géographie, c'était la géographie de... Ouais, c'était bon, le bassin armoricain, des trucs, auxquels, en fait, on ne comprend rien. Et puis, l'histoire aussi, c'était l'histoire de France. Hein. Mais pour ce qui était de la langue, voilà, là où c'est pareil, vraiment, avec Ngugi, c'est que, bon, nous, il y avait ce qu'on appelait le symbole. un peu l'équivalent du bonnet d'âne, quoi.
À l'école,
dans la cour
de récréation.
Exactement. Celui qui parlait sa langue maternelle, le Wolof, eh bien, on le lui mettait autour du cou. Et à la fin de la journée, et il s'arrangeait pour le refiler à un autre, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, celui qui avait ce symbole autour du cou, il était puni d'une façon ou d'une autre. Voilà.
C'était un morceau de bois.
Oui, un morceau de bois, voilà. C'est infamant, voilà, le fait de parler sa propre langue. Mais en même temps, on casse l'être en deux. Parce que cet enfant, rentré chez lui, eh bien, il ne peut parler que sa langue maternelle. Parce que s'il ne la parle pas, eh bien, il sera bien, bien seul dans son discours. Personne ne comprendra ce qu'il ou ce qu'elle veut dire. Et c'est quand même terrible, quoi. Et le mérite de Ngugi, avec un autre, Chikanta Diop, un peu avant lui, c'est d'avoir montré que c'était une anomalie, qu'on soit vraiment les seuls auteurs au monde à nous exprimer dans une langue que nos compatriotes ne peuvent pas lire, ne peuvent pas comprendre.
C'est pour cette raison que vous avez choisi d'écrire aujourd'hui en Wolof. Un tombeau pour Kinégajo, c'est votre deuxième roman écrit d'abord en Wolof, que vous avez traduit vous-même ensuite en français. Le premier, c'était Les Petits de la Guenon en 2018. Et dans ce tombeau de Kinégajo, justement, cette question, cette problématique de la langue, de l'écriture en Wolof, c'est aussi la problématique de Kinégajo, puisqu'elle s'intéresse au Wolof, qu'elle parle, puisqu'il y a une tradition de l'oralité avec cette langue, mais justement, elle va devoir apprendre à l'écrire, apprendre à le lire. Ça, c'est presque incroyable. Enfin, c'est difficile à comprendre, même.
Ben voilà. Alors, en fait, la version Wolof de ce roman, j'en ai publié un troisième, qui s'appelle Malanum Lendum. Et entre les deux, j'ai traduit en Wolof chez Zulma une pièce de Aimé Césaire consacrée à Patrice Lumumba, Une saison au Congo. J'ai traduit ça. Oui, effectivement. En fait, c'est bizarre lorsque on ne s'y arrête pas trop. Finalement, moi, j'ai aussi enseigné le Wolof à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants, ils m'ont posé la même question. Ils m'ont dit, mais comment ça se fait que nous ayons à apprendre notre langue maternelle ? Je leur ai dit, mais en fait, réfléchissez un peu. Dans le monde entier, le jeune Chinois, le jeune Japonais, le jeune Américain, le jeune Français, ils vont à l'école. Et qu'est-ce qu'ils apprennent ?
Ils
apprennent à écrire et à lire leur langue maternelle. Eh bien, c'est ce que fait Kinégajo. Mais seulement, à la différence du petit écolier qui apprend ça à l'âge de 5-6 ans...
Et on oublie qu'on a appris, d'ailleurs.
Ben voilà.
On pense que c'est inné.
Voilà. Elle est autour de la trentaine, 35 ans, 40 ans. Elle commence à apprendre ça. Ce qu'une amie appelle un mother tongue learner, c'est-à-dire le fait que quelqu'un à un âge très avancé soit obligé d'apprendre sa langue maternelle. Mais avec ça, elle peut écrire sa poésie, elle peut écrire ses romans. Mais moi-même, c'est un peu différent parce que moi, j'avais quand même appris le Wolof, comment l'écrire à l'université de Dakar. Je savais déjà. J'avais un peu perdu. Mais j'ai dû me remettre dans le bain avant d'écrire mon premier roman en Wolof.
Quand vous avez décidé d'écrire en Wolof, est-ce que ça vous a libéré ? Enfin, en fait, ma question, en gros, c'est est-ce que vous écrivez des choses différentes, vous pensez en Wolof et des choses
totalement
en français ? Qu'est-ce que ça a changé alors ?
Ce que ça a changé, c'est, en fait, on écrit avec de la mémoire, on écrit parce qu'on a un récit à dérouler. Mais on écrit surtout avec les voix que l'on entend. Ah ouais. Étant né au Sénégal, ayant grandi là-bas, ayant fait toutes mes études, ça c'est un cas de figure assez rare dans ma génération, toutes mes études, hein, jusqu'à l'université au Sénégal, n'ayant jamais vécu hors du Sénégal, devenu écrivain, bon, j'ai vécu quasi partout, hein, mais là, avant, c'est le Sénégal. Eh bien, j'ai toujours entendu, oui, cette rumeur, la musique de cette langue en wolof. Et lorsque j'écrivais en français, ben, j'étais obligé de l'expulser de mon texte. Ça n'y avait pas sa place. Et alors, lorsque j'écris en wolof, c'est vraiment le soulagement. Ça vient tout seul. On ne souffre pas. Quand j'écris en français, j'écris avec des mots que je n'entends pratiquement jamais dans la société sénégalaise. Au Sénégal, le français, c'est comme qui dirait la langue du dimanche, hein, une langue de cérémonie. On ne parle le français qu'avec les étrangers. Voilà. Et quand j'écris en français, j'écris dans une langue sourde. Je vais chercher les mots dans le dictionnaire. Je reconvoque les règles de grammaire, l'imparfait du subjonctif, et toutes ces histoires un peu compliquées. Le fait qu'il ne faut pas trop répéter les mots, hein, etc. Mais c'est pas pareil lorsque j'écris en wolof. Quand j'écris en wolof et que j'ai un problème, je m'arrête et j'entends la langue. Elle revient. Ce sont des sonorités qui reviennent et pas des règles de grammaire. Et moi, je prétends que lorsqu'on écrit dans sa langue maternelle, on comble ce déficit de mélodie, de poésie qu'il y a lorsqu'on écrit dans une langue qu'on ne parle pas au quotidien. Mais moi, je ne parle jamais français au quotidien, hein. Jamais, parce que ce serait, oui, j'ai mes neveux, la plupart des personnes que je connais n'ont pas été à l'école. Et puis bon, ben, l'élan, c'est ça, c'est de s'exprimer dans sa langue. Eh bien, quand j'écris en wolof, ouais, et quand j'ai commencé, c'était difficile, faut pas croire, hein, c'était très difficile. Il fallait casser. Mais après, c'est venu tout seul, quoi.
Boubacar Boris Diop, il y a un événement et un voyage qui vous a amené à prendre cette décision d'écrire en wolof, c'est quand vous êtes allé en 98 au Rwanda pour essayer de comprendre ce qui s'était passé 4 ans plus tôt, entre avril et juillet 94, au moment du génocide, au moment de ces 100 jours d'extermination des Tutsis par les Hutus. Il y a eu un déclic chez vous pour écrire justement en wolof et pour aussi penser autrement. Vous en avez tiré d'ailleurs ce roman que j'ai cité tout à l'heure, Mourambi, le livre des ossements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et sans ce voyage, il n'y aurait pas le Boubacar Boris Diop, écrivain, qui est face à nous et qui se bat pour sa langue, pour l'histoire de son pays, la littérature et son histoire personnelle aussi.
Je l'ai toujours dit exactement comme vous venez de l'exprimer. J'ai dit, si je n'avais pas été au Rwanda, je n'aurais sûrement jamais écrit en wolof. Ça ne veut pas dire que je n'en aurais pas eu envie. J'en ai toujours eu envie. Mais ça veut dire que je n'en aurais pas eu la force. C'est pas pareil. C'est-à-dire que ce que le Rwanda a fait, et que, bon, ce choc, quoi, qui a fait que moi, sans tomber dans le pathos, hein. Je considère qu'il y a ma vie avant le Rwanda et ma vie après le Rwanda. Et ma vie après le Rwanda, eh bien, un élément important, c'est la prise de conscience, d'abord, de la dimension politique du génocide, en tout cas des implications étrangères, notamment, maintenant ce n'est plus un tabou, même en France, notamment l'implication de l'État français.
vous dites qu'il a intervenu...
Sous François Mitterrand.
Il a intervenu pour défendre aussi la France et la langue française, en quelque sorte.
Ouais, j'aime bien le mot « aussi », parce que ce n'est pas que ça. Il y a... mais lorsqu'on lit les historiens, y compris les historiens français, et l'un des meilleurs, à mon avis, c'est Gérard Prunier, il essaie d'expliquer. Le Rwanda, c'est un tout petit pays. Ben, il a pas, c'est pas le Zaïre, quoi. Il n'y a pas de diamants, de pétrole et toutes ces richesses. Mais enfin, pourquoi la France est rendue complice de génocide? Bon, il y a évidemment la dimension France-Africaine, le clientélisme néocolonial, mais aussi, dit-il, en fait, et il parle d'ailleurs, Prunier, de façon assez... moqueuse, là, de la basse-cour francophone. Voilà, le Rwanda est un pays francophone, une espèce de bastion francophone, entouré par l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, tous ces pays anglophones, et donc, on ne va pas le laisser tomber, quoi.
Pour terminer, Aboubacar Boris Diop, est-ce que vous vous considérez aujourd'hui comme un témoin, un observateur ou un acteur de ce qui se passe au Sénégal et en Afrique de manière plus générale, parce que c'est aussi ce qui vous importe?
Ah oui, je suis un acteur, en ce sens que, ben, chaque fois que c'est nécessaire, ben, j'élève la voix, j'utilise ma plume, là, pour exprimer, voilà, mon opinion, et elle est assez, bon, voilà, elle est assez écoutée à ce qu'on me dit, et je le crois, je me considère comme un acteur politique, surtout pas un politicien, de toute façon.
Merci beaucoup d'être venu, Boubacar Boris Diop, dans les Midis de Culture. Je rappelle le titre de votre donc dernier roman traduit en français, écrit d'abord en Wolof. Il vient de paraître aux éditions Philippe Rey, Un tombeau pour Kiné Gajo.
Pour finir l'émission, nous avons choisi deux chansons à écouter, l'une de Ablaye Sissoko et l'autre de Fela Kuti. Laquelle des deux souhaitez-vous écouter?
Alors là, j'aime bien Ablaye Sissoko, et je le dis d'ailleurs dans le roman à un moment donné. J'ai connu à Saint-Louis, voilà, quand j'ai enseigné dans cette université Gaston Berger. Oui, oui.
Donc Sissoko.
Oui, Sissoko. J'ai rien contre Fela Kuti. Hein. J'ai mis 4 ans au Nigeria. Je l'écoutais beaucoup d'ailleurs.
Il faut choisir. De toute
mais
façon.
Sissoko.
Sissoko.
Voilà.
Maladani nani vaitalata maladani oma maladani
Ablaye Sissoko, Tala pour vous, Aboubacar Boris Diop, merci beaucoup d'être venu dans les studios de France Culture et dans les Midis de Culture, une émission préparée par Aïssa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delassel. C'est Nicolas Berger qui réalise l'émission et Anthony Thomasson est ce midi à la prise de son. Bon week-end Géraldine, à lundi.
Bon week-end Nicolas.